Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Soccer love.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Le Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Soccer love is amazing.
Attaquant, Karim Benzema.
Voici un moulèque.
Attaquant, Karim Benzema.
Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h, 21h, sur les ondes de CFAC, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Oui, c'est Mathieu en ondes avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine, au menu, eh bien, on a du lourd, on a beaucoup d'informations sportives de tous les horizons. Tout d'abord, ben, le CF Montréal est éliminé de la MLS. Le CF Montréal ne participera pas aux séries éliminatoires. C'est une déception, mais en même temps, on va en parler tout à l'heure. Là, est-ce que c'est vraiment une déception? Est-ce que avec l'effectif qu'on avait, avec les blessures qu'on a eues, est-ce qu'on était une équipe vraiment qui pouvait aspirer aux grands honneurs cette année? On va en parler tout à l'heure. Là, on va réserver une bonne trentaine de minutes à ça durant l'émission. Également, on va vous parler des séries éliminatoires qui s'en viennent dans le monde du soccer universitaire. On va terminer l'émission avec ça, ainsi que d'autres informations de soccer universitaire, avec bien entendu un peu de musique avant ça. Mais pour commencer l'émission, j'ai envie de vous parler du Phoenix de Sherbrooke. J'ai pas eu l'occasion encore une fois d'aller voir le Phoenix de Sherbrooke cette année, mais je vais y aller très bientôt. Peut-être demander une accréditation pour aller supporter en fait l'équipe locale et en parler à la radio. Les choses ont changé cette année si on compare le classement à celui de l'année dernière, parce que quand on regarde, on va vous le donner dans quelques instants, là, en fait, les trois des quatre meilleures équipes de l'année dernière sont dans le bas du classement. Il n'y a que Halifax qui fait bien les choses en ce début de saison. On le comprendra parce qu'il y a eu beaucoup de départs. Donc, les remparts, là, ça va pas très bien à l'heure actuelle. On va commencer par dire qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier avec le Phoenix de Sherbrooke. Il y avait deux matchs à domicile. Tout d'abord, une défaite hier de 6-2 au centre Marcel Dionne. Ça, c'est à Drummondville, c'est pas à domicile. Je m'excuse de la mauvaise information. Donc, du côté de Drummondville, ça a été une défaite de 6-2. Dans la défaite, Jacob Huger a marqué son quatrième but avec des passes de Mianscom et Bell Chamber. Et également, William Arsenault a marqué son premier but de la saison avec des passes à Rondeau et à Marcel. Ça a été une défaite de 6-2 contre les voltigeurs de Drummondville. Voltigeurs de Drummondville, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'aller voir jeudi dernier contre les Tigres de Victoriaville. Ça, c'était intéressant comme match. C'était un bon match, vraiment près de l'action. La LHGMQ, c'est magique. Je vais en parler tout à l'heure quand je vais parler des billets à vendre pour le Phoenix de Sherbrooke pour les prochains matchs. Ceux qui ne connaissent pas ça, la LHJMQ, et même je vous dirais le sport universitaire, le sport moins mainstream, là, on connaît beaucoup le Canadien de Montréal, le Rocket de Laval. Bon, Canadien de Montréal, là, juste pour vous dire, vous voulez avoir des bons billets, là, le prochain match des Canadiens, c'est contre les Devils de New Jersey, qui sont, on va le dire, là, quand même une bonne équipe. Ça se passe demain, le 24 octobre. On va vous donner le prix des billets là, pour les billets les mieux placés. Pas les plus chers, mais les billets là, vraiment près de l'action. Donc, on va prendre par exemple la section 101. On veut des billets dans la section 101. Eh bien, il faut débourser Un gros total de 302$. Ça, c'est les billets qui sont, disons, le mieux placés. Donc, c'est 302$. OK? 302$, rappelez-vous de ce chiffre-là. Après ça, on va aller vous parler des billets pour le Phoenix de Sherbrooke pour le prochain match le 27 octobre. Mais avant, on va retourner à nos moutons. Je vais vous donner aussi le résultat de vendredi soir pour le Phoenix de Sherbrooke. Et là, vendredi soir, eh bien, ça a été également une défaite contre les Olympiques de Gatineau par la marque de 5-2. Donc, deux défaites en trois soirs le week-end. Il faut le savoir, là, les joueurs de la LHGMQ, généralement, ça ne joue pas le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Des fois jeudi, là, mais c'est surtout le week-end, comme vous le savez, la plupart des joueurs, sinon tous, de la LHGMQ, c'est la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, ce sont des joueurs qui sont aux études. Donc, la semaine, il y a très peu de matchs. Donc, c'est surtout le vendredi, le samedi et le dimanche. Et dans la défaite de 5 à 2, contre les Olympiques de Gatineau, eh bien, Andrew Belchamber a marqué son deuxième avec des passes de Olivier Dubois et Israël Mienskom. Et Hugo Primo, son deuxième avec des passes de Étienne Tremblay-Mathieu et Jean-Félix Lapointe. Donc, ce qui fait à l'heure actuelle qu'au classement général de la Ligue, là, dans la conférence de l'Est, il y a deux conférences dans la LHGMQ, l'Est et l'Ouest. Eh bien, dans l'Est, là, les premiers, c'est le Drakkar de Bécomo avec 20 points. Deuxième, Halifax, 17 points. Troisième, Moncton, 17 points. Quatrième, Rimouski, 15 points. Cinquième, Cap-Breton, 14. Sixième, Charlottetown, 12. Septième, Chicoutimi, 12. Huitième, Acadie-Titan-Bathurst, 12. Neuvième, St. John Sea Dogs, 10. Et les Remparts de Québec sont derniers avec 8 points. 4 victoires, 8 défaites. Et on le rappelle, les Remparts de Québec, c'est l'équipe championne de la LHGMQ et l'équipe championne au Canada aussi de la Coupe Memorial. Et dans l'Ouest, la conférence du Phoenix de Sherbrooke, les premiers, Rouyn-Noranda avec 17 points. Deuxième, Victoriaville, 15. Shawinigan, 15. Quatrième, Drummondville-Vortigeur avec 15 points. L'Armada de Blainville avec 15 points. Cinquième, sixième, le Phoenix de Sherbrooke avec 13 points. Septième, les Foreurs de Val-d'Or avec 11. Et Gatineau, les Olympiques avec 8 points. Donc pour le Phoenix de Sherbrooke, là, l'effectif a changé. On sait, Joshua Roy, par exemple, joue à l'heure actuelle avec le Rocket de Laval. C'était le meilleur joueur l'année dernière. Il y a également Ethan Gauthier maintenant qui joue avec les Voltigeurs de Drummondville. Donc, plusieurs joueurs du Phoenix de Sherbrooke ont évidemment quitté. Mais ça reste quand même que c'est un beau produit et la saison est encore jeune. J'ai espoir en le Phoenix de Sherbrooke. Et pour vous montrer que j'ai espoir, eh bien, je vais vous parler du prochain événement du Phoenix de Sherbrooke. On a deux soirées. On a le 27 octobre, ça c'est vendredi si je ne me trompe pas. En effet, vendredi prochain contre les Eagles du Cap-Breton. Ça se passe du côté de Sherbrooke. Et si vous voulez savoir les billets sont combien là, les billets pour être le plus près possible de l'action, en fait la plupart des billets sont le même prix, c'est 19$ et 24 sous. Oui, vous avez bien compris, 19$ et 24 sous pour vendredi, samedi prochain contre les Eagles du Cap-Breton et les Saguenay de Chicoutimi. Donc allez encourager l'équipe locale, là, ça vaut la peine parce que c'est votre équipe locale ici dans la région de Sherbrooke. C'est l'équipe, je vous dirais, il y a le vert et or, oui. Mais le Phoenix de Sherbrooke, c'est des athlètes quand même intéressants et beaucoup de ces athlètes-là vont terminer à un haut niveau dans le hockey. Là, peut-être pas à la Ligue nationale, mais la American Hockey League, etc., etc. Et vendredi prochain, eh bien, c'est la soirée Hat-Trick Friday. Et samedi prochain, c'est la soirée Halloween, parce que l'Halloween s'en vient bientôt. Pour les meilleurs pointeurs du Phoenix de Sherbrooke, c'est Israël Mianskom avec 16 points, Olivier Dubois avec 10, Maverick Lachance 9, Louis Gendron avec 8 et Jacob Hugère avec 7 points. Et quand on regarde les statistiques de la LHGMQ, eh bien, on va vous donner ça dans quelques instants. Il suffit de retourner dans le site parce qu'il y a un petit problème technique ici là, pendant qu'on fait on fait ça en live, bien entendu. Le premier pointeur de la Ligue, c'est Johan Lushing de Moncton avec 19 points. Luke Woodworth avec 18 points des Voltigeurs de Drummondville. Troisième, des Tiques de Victoriaville, Tommy Cormier avec 18. Antonin Véro des Huskies de Rouyn-Noranda avec 18. Et Justin Gill du Drakkar de Bécomo avec 18 points. Donc Justin Gill également, c'était un joueur, si je ne me trompe pas, du Phoenix de Sherbrooke l'année dernière. Il avait quand même eu 93 points en 68 matchs. Donc c'était un joueur très important, une grosse perte là, pour le joueur de centre qui appartient désormais au Drakkar de Bécomo. Donc voilà, c'était une petite rubrique LHMQ pour parler de notre équipe locale ici, le Phoenix de Sherbrooke. On s'en va en musique et après on revient avec le CF Montréal. Vous écoutez Soccer Sport tous les lundis soirs 20h-21h sur les ondes de CFAC 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. C'était Maxi Rose et sa chanson Fallen. De retour sur les ondes de CFAC, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, Wissam Benstan en onde avec vous au microphone pour encore environ, je vous dirais, une quarantaine de minutes ici. Émission préenregistrée, bien sûr, malheureusement pas dans les studios du 88.3 FM, du très beau studio d'ailleurs de l'Université de Sherbrooke à CFAC, mais bien émission préenregistrée. Donc, mais c'est pas grave, l'information est la même, c'est de l'information et du contenu que j'estime quand même être de qualité. Donc, on va parler maintenant CF Montréal. Parce que le CF Montréal, eh bien, la saison, elle est terminée. Il y aura un bilan de saison la semaine, en fait, cette semaine probablement. Là, généralement, c'est dans la semaine suivant l'élimination de l'équipe. Et puis, j'y serai. Je serai en mesure de partager avec vous pour l'émission d'après, donc lundi dans une semaine, le contenu de ce bilan de saison. Je pense qu'il va y avoir des changements au sein du club. Est-ce que Hernán Losada sera là l'année prochaine? Je ne le sais pas, honnêtement. Est-ce que j'ai envie de le revoir là? Je ne le sais pas non plus. Je laisse ça à la direction de l'équipe pour gérer ça. Je ne suis pas un expert, là, parce que c'est pas bon non plus changer d'entraîneur tout le temps comme ça. Là. Il faut donner une certaine continuité. Est-ce que ça a été une saison catastrophique du CF Montréal? Non. Compte tenu de ce qu'on a, de ce qu'on a eu, de ce qu'on avait et de ce qu'on aura. C'est-à-dire que pendant une très bonne partie de la saison, on a manqué beaucoup de joueurs. On va en parler là dans les prochaines minutes. Mais pour commencer, je vais commencer avec un petit classement général là, de la Ligue des deux côtés. On va commencer par la conférence de l'Ouest, ce qui n'est pas notre conférence à nous, là, mais bon, on commence tout le temps par l'Est. Là, on va commencer par l'Ouest pour le dire une bonne fois pour toutes, puis après ça, on en sera débarrassé parce que ça ne concerne pas trop le CF Montréal. Donc, numéro 1, eh bien, c'est l'équipe d'expansion, mesdames et messieurs, avec 56 points, Saint-Louis, 34 matchs joués, comme toutes les équipes, 17 victoires, 12 défaites et 5 matchs nuls pour un total de 56 points. C'est la quatrième meilleure équipe de la Ligue et c'est la première meilleure équipe dans l'Ouest. Seattle, deuxième, 53 points. Troisième, LAFC avec 52 points. Quatrième, Houston avec 51. Cinquième, Salt Lake, 50 points. 48, Vancouver, 6e, donc une équipe canadienne. C'est la seule équipe canadienne, d'ailleurs, qui fera les playoffs, c'est les Whitecaps de Vancouver. 7e, Dallas avec 46 points. Et le play-in, eh bien, ça sera entre Kansas City, qui va recevoir Kansas City, 8e, qui recevra San Jose, 9e. Et le gagnant de ce match-là jouera contre Saint-Louis. Donc, dans l'Ouest, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, Saint-Louis va jouer contre Kansas City ou San Jose. Seattle va jouer contre Dallas. LAFC va jouer contre Vancouver. Et Houston contre le Real Salt Lake. Éliminé avec 43 points, dis-je bien, c'est Portland. Portland qui ont perdu leurs deux derniers matchs, notamment 4-0 contre le CF Montréal. Et ils ont perdu également leur dernier match. Donc, ils avaient juste besoin là d'un petit match nul probablement, puis ils étaient qualifiés. Eh bien, ils n'ont pas pu le faire et c'est très dommage quand même pour Portland. Portland, c'est quand même une ville de soccer. Là. C'est une ville qui a déjà été championne de la MLS. C'est un club qui a une histoire. C'est un club aussi de la côte ouest, le seul club de l'État de l'Oregon. Et ils ont perdu 3-1 à domicile leur dernier match, puis ils s'étaient fait vraiment massacrer par le CF Montréal 4-1. Et avant ça, ils avaient fait 3-3 avec Los Angeles, LA Galaxy, qui honnêtement, LA Galaxy, là, c'est une des pires équipes de la Ligue. cette année, donc ils sont éliminés. Et Minnesota a également perdu son dernier match et sont éliminés 11e avec 41 points. 12e, Austin avec 39 points. 13e, LA Galaxy avec 36 points. Et le dernier avec 27 points. L'avant-dernière pire équipe de la Ligue, Colorado Rapids avec 27 points. 5 victoires, 17 défaites et 12 matchs nuls. Et c'est également, mesdames et messieurs, Colorado, là, c'est la pire attaque de toute la Ligue dans l'Ouest et c'est à égalité avec Toronto avec 26 buts marqués en 34 matchs. Mais ça n'est pas la pire défense de la Ligue. Donc voilà, niveau meilleure attaque pour la Ligue dans l'Ouest, la MLS dans l'Ouest, eh bien c'est Saint-Louis avec 62 buts, c'est la meilleure attaque. Et la meilleure défense, eh bien il faut donner ça à Seattle, comme d'habitude, avec 32 buts accordés en 34 matchs, donc c'est moins d'un but accordé par match, ce qui est quand même bon. Et c'est les meilleurs de la Ligue avec une autre équipe de l'Ouest, là, on va les dire tout de suite, avec Nashville qui a accordé également seulement que 32 buts. Et la meilleure attaque de la Ligue, ça n'est pas Saint-Louis, c'est dans l'Est. Alors là, on va se déplacer dans l'Est parce que là, c'est intéressant. Cincinnati, premier, 69 points, la meilleure équipe de la Ligue. Deuxième, Orlando, 63 points. Deuxième meilleure équipe de la Ligue en termes de points. Et c'est intéressant parce que l'année dernière, le CF Montréal a éliminé Orlando en huitième de finale, si je ne me trompe pas, là, de la MLS. Et puis là, vous voyez, bien, cette année, ils sont déjà deuxième dans, au rang général de la MLS. Comme quoi, dans la MLS, les choses vont vite et on peut dire ce qu'on veut de cette Ligue-là. Là, vous m'écoutez bien, chers auditeurs, chers auditrices, là, je vous le répète, on peut dire ce qu'on veut de cette Ligue-là, la dénigrer, la comparer par rapport aux joueurs européens, par rapport aux clubs européens, par rapport à l'histoire des clubs européens, etc. C'est vrai que historiquement, c'est moins fameux que beaucoup de clubs mondiaux, et non pas mondiaux. Mon Dieu qu'ils sont meilleurs que, en tout cas, mondiaux. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à la MLS, c'est que c'est probablement la ligue dans le monde où est-ce qu'il y a le plus de parité. Parce que Orlando, une équipe comme Orlando l'année dernière qui se qualifie difficilement pour les playoffs et que l'année d'après, ils sont deuxième, eh bien, ça vous embouche un coin. Alors que le CF Montréal l'année dernière, c'était la troisième meilleure équipe dans la ligue, en tout cas, c'était dans le top 5. Cette année, ils ne sont pas dans les séries. Donc, ça vous dit que dans cette ligue-là, tout est possible. New York City, il y a 2 ans, champion de la MLS, ne sont pas qualifiés cette année pour la MLS. L'année d'avant, en 2021, Portland, finale de la MLS. Cette année, ils ne sont pas qualifiés pour la MLS. Et quand on regarde là, toutes les équipes qui ont gagné des titres dans la MLS, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a environ une quinzaine d'équipes qui ont gagné la MLS. Ça, c'est presque la moitié de la Ligue. Et la Ligue n'existe pas depuis si longtemps que ça. Et en plus, beaucoup d'équipes n'existent pas depuis si longtemps que ça. LA Galaxy, l'équipe la plus titrée dans la MLS avec 5 titres. Ils sont là depuis 27 ans dans la Ligue. Cette année, c'est une des pires équipes de la Ligue. Donc, ça bouge en MLS et je tenais à le mentionner. Donc, dans l'Est, comme je disais, Cincinnati, premier, 69 points. Deuxième, Orlando, 63 points. Troisième, Columbus, 57 points. Ça, c'est l'équipe de Wilfrid Nancy. C'était l'ancien entraîneur-chef du CF Montréal qui est parti pas très content, si on peut dire ça comme ça. Qui a voulu prendre un nouveau défi, alors que Wilfrid Nancy, c'est un francophone. Il a gravi tous les échelons avec le CF Montréal, presque tous. Il était adoré. Il a coaché l'une des meilleures saisons de toute l'histoire du club en MLS, qui est probablement la meilleure saison, ou du moins une des meilleures. Là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été mieux que celle-là. Il était adoré par tout le monde et il a dû quitter. Cette année, Columbus, 3e, 57 points. 4e, Philadelphie, 55 points. 5e, New England, 55 points. 6e, Atlanta, 51. 7e, Nashville, 49 points. Et 8e et 9e, eh bien, c'est New York et Charlotte avec 43 points chacun. Dans les playoffs, qu'est-ce que ça va donner? Cincinnati va jouer contre le gagnant entre New York et Charlotte. Orlando, Nashville, Columbus, Atlanta et Philadelphie va jouer contre la Nouvelle-Angleterre. Ce sera des matchs aller et retour. Donc, il va y avoir une équipe, chaque équipe reçoit Contrairement à l'année dernière, là, où est-ce que c'était une année Coupe du Monde, c'était juste un match les playoffs. Cette année, c'est match aller-retour, sauf pour le match entre le 8e et le 9e. Le dernier match du CF Montréal, ça se passait du côté de Columbus, l'équipe qui entraîne maintenant Wilfried Nancy, et dans laquelle joue Rudy Camacho, qui était un des meilleurs défenseurs du CF Montréal. Le CF Montréal s'est incliné par la marque de 2-1 du côté de Columbus. Mais même avec une défaite, le CF Montréal pouvait quand même se qualifier. Ça a été un match qui a été dominé par Columbus, parce que Columbus a un meilleur effectif, il faut dire ce qui est, surtout offensivement. Énormément d'équipes de la MLS ont un meilleur effectif offensivement que le CF Montréal. Et le CF Montréal a terminé 10e avec 41 points, 11e New York City FC avec 41 points, DC 12e 40 points, 13e Chicago 40, Miami 14e avec 34 points et 15e Toronto dernier, la risée de la Ligue avec 22 points, un salaire de près de 16 millions de dollars pour Lorenzo Insigne. Ça a été une catastrophe, la signature de ce joueur-là. Honnêtement, c'est peut-être probablement le plus gros flop de tous les temps de l'histoire de la MLS. Puis même, je le mettrais là, dans le foot mondial parce que gagner 16 millions avec Toronto FC et avoir presque aucun impact, c'est vraiment risible. Donc pour Toronto, ils ont tenté le coup avec Jovinko Altidore, ça leur a rapporté beaucoup. C'était une équipe plaisante à avoir à jouer, c'était une sensation dans la MLS. Mais avec Lorenzo Insigne, ça a été une catastrophe. On ne peut pas dire la même chose de Bernardeschi parce que Bernardeschi, l'année dernière, ça a quand même très bien été. Cette année, ça a été coup-ci, coup-ça, mais il a quand même accumulé certaines statistiques avec Toronto FC. Puis surtout, il n'a pas été blessé tout le temps comme Lorenzo Insigne. Puis quand Lorenzo Insigne était là, ça n'a pas été ça. Honnêtement, là, c'était très décevant. Et le CF Montréal est éliminé parce que, bien entendu, Charlotte a battu l'Inter de Miami lors du dernier match, mais aussi parce qu'un défenseur de Nashville a eu une crampe au cerveau, et il a fait une faute complètement stupide dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps contre un joueur du New York Red Bulls, et l'arbitre a sifflé un penalty. C'est un penalty qui était clair et net, et New York Red Bulls ont marqué. Et s'ils ne marquent pas ce penalty ou s'il n'y a pas cette crampe au cerveau du défenseur, New York ne gagne jamais ce match-là et termine avec 41 points et on passe devant au classement parce qu'on a gagné plus de matchs qu'eux. Et donc, on aurait joué contre Charlotte pour le match de play-in. On aurait joué à Charlotte probablement. Là, ce que ça veut dire qu'on serait revenu à Montréal, j'aurais pas mis beaucoup d'argent là-dessus, mais quand même, on aurait eu un match de play-off. Et là, on va voir qu'est-ce que les acteurs principaux vont dire dans les prochains jours, parce que il y a eu la conférence de presse d'après-match, mais c'est pas là où est-ce qu'il y a le plus de feux d'artifice. On le sait très bien, là, en général. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que Hernan Losada va rester? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? Et des joueurs comme Nathan Saliba, qui a connu une très belle saison, Mathieu Schwanner, qui a connu une saison exceptionnelle, est-ce qu'ils vont rester avec le club? Est-ce qu'ils vont avoir des nouveaux contrats? Ça, c'est une question aussi qu'il va falloir se poser. Et donc, il va falloir voir ça. Jonathan Sirois dans les buts, ça a été incroyable. Ça a été probablement le joueur de la saison. Waterman en défense centrale aussi, ça a été pas pire. Gabriel et Corbeau aussi, c'était bon. Défensivement, le CF Montréal, là, écoutez, ça n'a pas été à chier, si on peut dire ça comme ça, là, sans vouloir avoir la langue de bois. Ça a été correct, surtout à domicile. Hein. Surtout à domicile, il faut le dire, parce que à l'extérieur, ça a été une équipe complètement différente. On va faire le classement, là. Par exemple, dans l'Est, à domicile pour le CF Montréal. À domicile, le CF Montréal est 6e dans l'Est. 17 matchs joués, 10 victoires, 3 défaites, 4 matchs nuls, 26 buts pour, 12 buts contre, là. À domicile, avec 12 buts contre en 17 matchs, là, le CF Montréal, c'est la meilleure équipe de toute la division de l'Est. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, là, il y a seulement deux équipes, qui font mieux que le CF Montréal en termes de buts accordés à domicile. C'est Houston avec 11 et Seattle avec 11 également. Toutes les autres équipes ont accordé plus de buts à domicile que le CF Montréal. Par contre, quand on regarde à l'extérieur le nombre, la situation du CF Montréal, en 17 matchs à l'extérieur cette année, le CF Montréal, c'est 2 victoires. 2 matchs nuls, 13 défaites, 10 buts marqués en 17 matchs à l'extérieur. Et attachez bien le chapeau, là, c'est 40 buts encaissés à l'extérieur. 40! Même Toronto FC n'ont pas fait pire. Là. Toronto FC sont à 37. C'est la pire équipe de la Ligue à l'extérieur. Même LA Galaxy et Colorado ont accordé 38 buts à l'extérieur. Donc, le CF Montréal, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à l'extérieur, ils ont été très mauvais. Et puis, une équipe qui veut aspirer à être champion un jour, là, on ne parle pas de cette année, à l'extérieur, il faut que tu sois bon. L'année dernière, le CF Montréal a connu une très belle saison parce que non seulement à domicile, ils étaient bons, mais à l'extérieur, l'année dernière, le CF Montréal, c'était une très bonne équipe. Et cette année, malheureusement, ça n'est plus le cas. Et donc, overall, qu'est-ce que ça donne là, si on compte tout simplement les statistiques overall? Bien, en 34 matchs, on aura marqué 36 buts et on aura accordé 52 buts. Donc, parmi les équipes qui sont qualifiées là, dans l'Est, en termes de buts marqués, bien, il y a juste les New York Red Bulls qui ont fait aussi pire que nous, si on peut dire ça en guillemets. Et en termes de buts encaissés avec 52, là, il y a quelques victoires. Il y a Atlanta avec 53 qui ont fait pire et Charlotte aussi qui ont accordé 52 buts. Maintenant, quand on regarde cet effectif-là du CF Montréal, quand on regarde les joueurs qui composent cette équipe-là, quand on regarde, là, on va dire ça, bon, moi, j'utilise SofaScore pour, comme site sur Internet pour faire des recherches sur des joueurs, sur des matchs, sur des statistiques. Et le meilleur joueur coté, là, les meilleurs joueurs du CF Montréal coté, c'est Chouinard avec 7.23, Waterman avec 7 et Sirois avec 6.92. Et c'est mérité. Ils ont été les trois meilleurs joueurs du CF Montréal de cette saison. On peut aussi rajouter avec ça là, Nathan Saliba qui a fait une très belle impression. Donc Chouinard, Waterman, Sirois, ça a été très bon. En termes de buts marqués, le meilleur buteur, c'est Kwadwo Opoku, okay? celui qu'on appelle Mahala Opoku au stade olympique. Il a marqué 3 buts, 1 passe avec le CF Montréal. Donc, il y a 4 buts, 1 passe avec le CF Montréal. Le reste, là, ça a été avec Los Angeles Galaxy. Tu as Chouinard qui a marqué 5 buts, Ofor qui a marqué 4 buts, Kyoto 3, Mason Toy 3, Sunusi 3, et Duke 2, Lapalainen 2, Waterman 1 et Lassiter 1. Quand on voit là, que Romel Kyoto a marqué 3 buts, sachant qu'il a marqué, il a manqué peut-être 70% de la saison, environ, là, peut-être plus, et qu'on voit que Opoku a marqué 4 buts avec le CF Montréal, ce qui fait en sorte que ton meilleur buteur, c'est Mathieu Chouinard avec 5, en termes de buteur de buts marqués avec le CF Montréal, si on veut, là, ça dit quelque chose, parce que Mathieu Chouinard, c'est pas un buteur. Chinonso Ofor a 4 buts, et Ofor a joué beaucoup de matchs. Le problème avec le CF Montréal, la défense à domicile, elle a été correcte, elle a été excellente. À l'extérieur, elle a été très mauvaise. Il faut dire aussi qu'on a perdu Rudy Camacho, qui est un pilier en défense. Il y a eu beaucoup de blessures, donc ça n'a pas aidé. Mais au moins, on peut baser quelque chose de bien sur notre aspect défensif, parce qu'à domicile, on était capable de le faire. Avec une équipe complète, je pense que notre défensive, elle aurait été meilleure que ce qu'elle a été à l'extérieur durant toute la saison. Et il faut aussi rappeler qu'on a commencé la saison là, avec que des matchs à l'extérieur pour commencer. C'était, là, si je ne me trompe pas, on parle des mois de février, mars, avril. Là, on a perdu 5-0 à Vancouver. On a perdu 4-0 en Nouvelle-Angleterre. Donc ça, c'est 9 buts là, accordés en 2 matchs. Ça, c'est au début de la saison, quand il y avait des blessures, il y avait du carton rouge, tout ça. Donc on aurait pu vraiment mieux faire que ça. Après ça, ça s'est lancé avec plusieurs victoires. Il y a eu le championnat canadien où est-ce que le CF Montréal s'est rendu en finale. Ça a été quand même pas pire. Ça a été perdu, je vous dirais, facilement contre Vancouver. Il y a eu également, selon moi, là, la très grosse déception de la League's Cup. Tu joues les 2 matchs à domicile contre Pumas. Tu mènes 2-0. Tu te fais égaliser en fin de match, ce qui fait en sorte que Pumas revient avec 1 point. Et ce point-là, ça te revient en pleine face parce que le match après, tu perds contre DC United alors que tu domines. Et donc, tu es out de la League's Cup. Et on aurait pu, après ça, avoir un beau petit match là, de 16e de finale à Montréal, au stade Saputo, pardon, contre une équipe qui était mal classée. Là, je pense que c'était Querétaro, une équipe là, de bas calibre, là, si on veut, de la Ligue mexicaine. Et puis ça, ça a été vraiment un mauvais résultat pour le CF Montréal. Ça a été une déception. Et quand on regarde comment on a terminé la saison, là, c'est-à-dire qu'on a depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans nos 10 derniers matchs, on a gagné deux fois. Une fois contre la Nouvelle-Angleterre 1-0 et une fois contre Portland 4-1. Et ça fait en sorte que c'est là qu'on a payé cash pour le début de saison et pour cette fin de saison-là. Puis en plus, en fin de saison, on n'avait pas trop de blessés. Donc c'est vraiment dommage. C'est dommage pour le CF Montréal. Je l'ai dit plusieurs fois cette année, là, puis je le répète, pour être dominant ou pour offrir des moments forts, pour donner des frissons aux fans, pour vraiment que l'équipe là, devienne une équipe respectée à travers la ligue et suivie, écoutée, tout ça, ça prend des buteurs. Et le CF Montréal n'en a pas. Des joueurs qui sont capables de marquer des buts régulièrement sur plusieurs saisons. Il y a Romel Kyoto qui l'a fait à Houston, il l'a fait à Montréal. Mais mis à part ça, la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants à l'heure actuelle qui peuvent combler une absence de Romel Kyoto. C'est la vérité, ce sont les faits. Et malheureusement, Mason Toy, je l'aime beaucoup, mais il n'a pas pu faire le travail avec le CF Montréal. Vilsain, il est encore très jeune. Je pense qu'il y a énormément de potentiel chez Vilsain, mais à l'heure actuelle, il est encore beaucoup trop jeune pour step up et prendre cette place-là. Mais je pense qu'éventuellement, Vilsain, avec ce que j'ai vu de lui cette saison, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'éventuellement ça débloque. Chinonso Ofor, c'est quelqu'un qui essaye beaucoup. Il a du cœur, il se bat, il est bon physiquement, mais en termes de finition, malheureusement, c'est pas ça. Opoku, c'est bon. Première saison avec le CF Montréal, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Les trois, là, quand on a joué avec Opoku, Kyoto en attaque, c'était très bon. Mason Toy, on l'a essayé. Sunusi, on l'a essayé. D'ailleurs, Sunusi a été très bon contre Portland. Il a encore marqué contre Columbus. Mais il a eu beaucoup de chance, Sunusi. Sean Rea, malheureusement, ça n'a pas trop marché avec le CF Montréal. Et bien, une autre chose aussi, c'est que le CF Montréal possède la plus petite masse salariale de toute la ligue. Est-ce que l'argent va faire en sorte que tu gagnes automatiquement? Non. Mais est-ce que être la dernière équipe en termes de masse salariale, est-ce que ça va nécessairement faire en sorte que tu vas être mieux et que tu vas avoir plus de chances de gagner? Absolument pas, c'est plutôt le contraire. Seulement un joueur désigné côté CF Montréal, c'est Victor Wanyama. Ça, ça a été une autre chose cette année. Victor Wanyama, plusieurs rumeurs circulent. Là, j'ai pas envie de commencer à parler de ça, c'est pas mon rôle. Vous irez vous informer, le club dit une chose, le Sada dit une autre chose, la femme de Wanyama dit une autre chose, Wanyama parle pas trop, donc voilà, mais c'est le seul joueur désigné de l'équipe, un joueur désigné, c'est-à-dire c'est un joueur dont la masse salariale ne compte pas, ou le salaire ne compte pas dans la masse salariale, en fait, c'est plus ça. Ou le transfert, là, ou un des autres, un des deux, là, je ne me rappelle plus, mais bref, c'est comme un joker, une sorte de joker que tu peux avoir. Et c'est le joueur le mieux payé, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. C'est pas un joueur spectaculaire offensif, évidemment, mais il ne joue pas. Il n'a pas joué les derniers matchs, donc ça ne l'a pas trop aidé. Bon, on peut dire aussi, on pourrait se défendre le coach en disant que Saliba et Piet, ça a été quand même solide. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même le joueur le mieux payé de l'équipe. Donc, c'est comme si Cole Caulfield, eh bien, il ne joue pas avec le Canadien. Ils en parleraient tous les jours côté CF Montréal. Les médias n'en ont pas trop parlé. Puis d'ailleurs, avant le match, là, bien honnêtement, j'ai été déçu, encore une fois, de beaucoup de médias qui n'ont pas couvert la course aux séries éliminatoires pour le CF Montréal. Parce que c'était un match do or die. Puis le CF Montréal avait son destin entre ses mains. Et on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias. On le sait, ici, à Montréal, au Québec, la seule équipe sportive qui compte pour beaucoup de personnes et beaucoup de médias, c'est le Canadien de Montréal. Même si, en termes d'ambiance, là, pour avoir fait les deux cette année, entre le CF Montréal et le Canadien de Montréal, là, et je mesure mes paroles puis je maintiens ce que je dis, je le pense. Là, l'ambiance entre un stade de soccer et un aréna de hockey, ici, là, en Amérique du Nord, ça n'a absolument rien à voir. Le soccer est largement au-dessus. Parce que au hockey, quand la puck est drop là, sur la glace, on peut entendre une mouche voler. Et après ça, c'est go Habs go de temps en temps. Puis public à réaction quand, bien entendu, il y a un but ou une mise en échec, ce qui est correct, là, ce qui est normal. Alors qu'au soccer, c'est 90 minutes l'ambiance. Donc voilà, c'est dit. Petite montée de lait, un peu frustré que le CF Montréal ne fasse pas les séries, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà, côté également bleu-blanc-noir, deux joueurs seulement dépassent le million de dollars. Là, Victor Wanyama, on l'a mentionné, et Romel Kyoto qui empoche 1 million environ par année. Et parmi les joueurs qui offrent le meilleur qualité-prix de l'équipe, là, on retrouve quelques joueurs québécois, dont le milieu de terrain Mathieu Chouanière avec 275 000 $. Jonathan Sirois avec 90 000 $ par année. Ça, c'est très peu. Là, écoutez, c'est un des meilleurs gardiens de toute la ligue. 90 000 $ par année. Ça, c'est un salaire classe moyenne un peu élevé au Québec. Là. 90 000 là, par année, c'est pas un salaire de riche. Et il gagne ça et c'est un des meilleurs gardiens de toute la ligue. Il va augmenter, bien entendu, parce que vous comprendrez que, là, que les contrats ont été signés avant. Et Bryce Duke, lui, encaisse 150 000 $ cette saison. Bryce Duke qui a fait de son mieux cette saison, mais si vous me demandez mon avis, ça n'a pas été un des meilleurs joueurs du CF Montréal et il aurait pu faire beaucoup mieux. Également, Mason Toy, 608 000 $ par année, lui qui est tout le temps sur le banc, ou presque. Milieu de terrain, Ahmed Hamdi, 600 000 $ sur le banc. Un des meilleurs salaires de l'équipe, ces deux-là. Et ils sont sur le banc la plupart du temps. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un mauvais recrutement? Est-ce que c'est les joueurs qui ont... Il y avait du bon potentiel, puis ils n'ont pas « deliver », comme on dit en anglais? Ça reste à voir, mais il y a des déceptions dans le CF Montréal. Il va y avoir... probablement, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe avec dans l'entre-saison là, pour voir s'il n'y a pas... des départs et des arrivées. Là, Wanyama, l'année dernière, était sur le départ. Finalement, il est resté. Et je vais vous le dire, là, bien honnêtement, on a perdu des joueurs. Georgi Mihailovic, AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Alistair Johnston, on l'a perdu. Celtic Glasgow, il joue la Ligue des Champions. Puis il est premier, bien entendu, en Écosse. Ismaël Koné, qui joue à Watford. Donc ça, c'était des joueurs de qualité. Rudy Camacho, défenseur central. Il n'est plus... là. Et donc, il y a un gros changement d'équipe. Est-ce que Losada pouvait faire vraiment mieux que ce qu'il a fait? Peut-être, mais pas de beaucoup, si vous me demandez mon avis. Voilà, donc c'est dit. Et je vais juste regarder pour le fun. L'année dernière, là, quand on a perdu 3-1 contre New York City FC, on va regarder le 11 partant du CF Montréal. Dans les buts, James Pantémis. Bon, là, c'est Jonathan Sirois, c'est parce que Pantémis s'est blessé. Malheureusement pour lui, là, tant que Jonathan Sirois ne sera pas blessé, ça va être Sirois qui va avoir les filets, sauf peut-être pour un match contre Forge FC en championnat canadien. Défense centrale à 3. Kamal Miller, parti. Rudy Camacho, parti. Joel Waterman, encore ici. Latéral gauche, Lassi Lapalainen, sur le banc la plupart de la saison. Alistair Johnson, piston à droite. Parti. Samuel Piette, capitaine, encore là. Victor Wanyama, sur le banc. Ismaël Koné, parti. Georgi Mihailovic, parti. Kay Kamara, parti. Donc, sur le match le plus important de la saison dernière, là, en MLS pour le CF Montréal, sur le 11 partant, là, il y a Waterman qui reste et il y a Samuel Piette. C'est tout. Tous les autres sont soit des remplaçants ou soit ils ont quitté. Bien entendu, on peut aussi parler là, de Romel Kyoto. Bon, Romel Kyoto, ça aurait été lui le titulaire là, s'il n'était pas blessé. C'était Kay Kamara qui avait joué. Et le départ de Kay Kamara aussi, ça a été très néfaste pour le CF Montréal parce que c'était quelqu'un qui était très aimé dans le vestiaire. On l'a vu d'ailleurs quand Chicago est revenu à Montréal. Des poignées de main avec tout le monde, un respect pour Kay Kamara. C'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue, de la MLS. Alors, regardez ça, je vais vous donner ces statistiques. Orange County Blue Star, 19 matchs joués, 16 buts. Sporting Kansas City, 113 buts, 113 matchs, 38 buts. Donc ça, c'est un but à tous les trois matchs. Columbus Crew, 27 buts en 41 matchs. New England Revolution, 19 buts en 52 matchs. Vancouver Whitecaps, 14 buts en 28 matchs. Colorado Rapids, 17 buts en 38 matchs. CF Montréal, bon, 9 buts en 32 matchs. C'est un but à presque tous les trois matchs. Là, il se faisait un peu plus âgé, mais il a quand même marqué beaucoup de buts importants avec le CF Montréal. parti. Il est parti, puis on ne l'a pas remplacé par des joueurs, malheureusement, qui pouvaient marquer autant de buts que lui. Donc voilà, également, bon, il y a des joueurs aussi qui sont partis là, comme Joaquín Torres, qui non plus n'a pas joué beaucoup à Philadelphie, qui n'a pas été souvent titulaire. Et quand même, malgré tout, Gabriel Ecorbo, ça a été une belle surprise cette année, là, défenseur central titulaire dans la défense à 3 avec Campbell, Corbeau et Waterman. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu la fin de saison du CF Montréal. On va avoir un bilan de saison qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Les matchs des playoffs, eh bien ça commence mercredi le 25 octobre avec Charlotte qui va recevoir New York Red Bulls. Ça, c'est nous là. Nous, on devait être là. On devait être là, puis juste le fait de s'être qualifié pour les playoffs, ça aurait quand même été symboliquement, bien, on aurait été qualifié. Là, on est éliminé à cause d'une mauvaise fin de saison, si vous me demandez mon avis. Là. 10 matchs joués, seulement 2 victoires, c'est pas suffisant. Donc, New York Red Bulls contre Charlotte mercredi à 7h30 et Kansas City contre San Jose à 9h30 également, PM bien entendu. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite grande, ce gros segment-là de la MLS et du CF Montréal. On va en parler là, dans les prochaines semaines parce que les playoffs sont là. C'était Maxi Rose et sa chanson Fallen. De retour sur les ondes du 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, CFAC. Vous êtes à l'écoute de l'émission Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h-21h. Votre émission sportive de la région de Sherbrooke avec nul autre que votre animateur Wissam Bensta au microphone. Donc on vient d'entendre la chanson de Vincent Cooney, Exil, une nouveauté francophone pour vous ici à CFAC. Maintenant on va y aller, on va terminer l'émission avec des petites actualités sportive, qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport, mais universitaire. Cette fois, on va commencer par soccer universitaire masculin. On connaît déjà les demi-finales. Eh bien, ça va être l'UQAM qui va recevoir les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières vendredi le 27 octobre à 19h. Et l'autre demi-finale, eh bien, ça va être les Carabins de l'Université de Montréal qui vont recevoir les Stingers de Concordia au Sepsum à 20h30 vendredi le 27 octobre. Ça, c'est une surprise parce que dans le dernier match de la saison, McGill recevait le Varéor de l'Université de Sherbrooke et McGill devait simplement gagner contre le Varéor pour se qualifier. Ils n'ont pas pu gagner, ça s'est terminé 0-0. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le vert et or de l'Université de Sherbrooke au soccer masculin universitaire n'avait pas eu un seul jeu blanc, un seul clean sheet. Et ils ont eu leur clean sheet lors du dernier match. Et ils ont fait mal aux Redbirds de McGill. Donc, dommage pour les Redbirds de McGill. Côté soccer féminin, eh bien là, c'est assez clair. C'est Montréal au Simpson qui va recevoir les Martlets de McGill vendredi à 18h. Et le Rougeur de l'Université Laval va recevoir l'UQAM vendredi le 27 octobre à 19h. Ça se passe du côté du PEPS. Maintenant, si on y va avec le rugby universitaire féminin, il n'y a pas d'équipe de rugby universitaire féminin pour l'Overheur de l'Université de Sherbrooke, mais on va en parler quand même. La finale s'est jouée le week-end dernier et Ottawa sont les championnes cette année au rugby universitaire féminin avec une victoire de 27-12 contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Ça se passait du côté de Québec. Ça se passait là samedi dernier à 13h de l'après-midi. Donc un bon match en après-midi. Et malheureusement pour le Rouge et Or de l'Université Laval, eh bien, elles ont perdu le titre de championne aux mains des GGs d'Ottawa. Et on va y aller maintenant au rugby universitaire masculin cette fois-ci parce que là, la saison n'est pas encore terminée. Mais on connaît déjà les demi-finales. Première demi-finale le 27 octobre prochain, donc le 27. Du terrain Matt Anthony à Ottawa, eh bien Ottawa va recevoir McGill, donc les GGs contre les Redbirds. Et l'autre demi-finale, eh bien c'est l'ETS, l'École de technologie supérieure, qui va recevoir les Stingers de Concordia à 18h. Et ça se passe dimanche prochain, le 29 octobre. Et la finale, ça va se passer la semaine d'après, le 3 novembre, parce que vous savez très bien que du rugby, là, c'est pas possible de jouer deux matchs de rugby en 2-3 jours. Là, ça prend du temps pour se reposer. Il y a énormément de contacts là-dedans. France, un sport très physique. Donc, la finale sera jouée la semaine d'après, le vendredi 3 novembre. Et le TS va jouer d'ailleurs du côté du collège Notre-Dame sur la rue. C'est sur la rue, si je ne me trompe pas, Queen Mary. Pas très loin là, de l'oratoire Saint-Joseph, le 29 octobre, dimanche à 18h, si jamais ça vous tente d'aller voir ça. Et pour terminer cette émission sportive de Soccer Sport, Ladies and Gentlemen, eh bien, le football universitaire, le vainqueur de l'Université de Sherbrooke, malgré la défaite du week-end dernier, d'hier en fait, 27-7 contre le Rougeur, eh bien, le vainqueur aura une opportunité de participer aux séries éliminatoires. Ils doivent tout simplement battre samedi prochain, le 28 octobre à 13h, du côté de Sherbrooke. Ils doivent battre McGill et ils pourront peut-être participer aux séries éliminatoires. Et l'autre match, eh bien, ça sera les Carabins de l'Université de Montréal qui vont recevoir les Stingers de Concordia. On sait déjà que les deuxièmes contre le troisième, eh bien, ça sera le Rougeur de l'Université Laval qui va recevoir les Stingers de Concordia. Et les Carabins qui sont premiers au classement de football à l'heure actuelle, eh bien, ils recevront soit McGill ou soit Sherbrooke. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette émission sportive. C'était Soccer Sport sur les ondes de CFAQ, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Avec nul autre que moi-même au microphone, Wissam Bensta. Je vous souhaite une excellente semaine et soyez prudents. Au revoir.